Ici Robert Blondin, bienvenue à l'aventure.
Aujourd'hui, l'aventure de Siegfried Gagnon. On parlera plus tard pourquoi il s'appelle Siegfried Gagnon. Je l'ai connu il y a très longtemps. Il était tout jeune homme quand je l'ai connu. On en reparlera aussi plus tard. Mais on voudrait parler d'abord de sa grande passion qui a été aussi son métier. Il est devenu fonctionnaire, assez haut fonctionnaire au Québec, pour s'occuper de chasse et pêche. Siegfried, fais-nous rêver. Chasse et pêche au Québec, tu connais ça comme le fond de ta poche. Tu as vécu ça avec je ne sais pas combien de journalistes étrangers. Les meilleurs spots, les meilleurs endroits, les meilleures histoires de chasse et pêche, c'est toi qui les as au Québec, non?
Bien, ça vient tout d'abord d'une grande passion. J'avais 5-6 ans, puis à Oka, mon grand-père m'amenait pêcher sur le bout du quai ou m'amenait dans une rivière, sur le lac des Deux-Montagnes, dans une petite chaloupe, et puis j'ai commencé comme ça. Ma grand-mère voulait qu'on m'attache sur le bout du quai pour pas que je tombe à l'eau. Et puis, c'est là que j'ai rencontré mes premiers voisins Mohawk, à Oka. Je me souviens, j'attrapais parfois de gros poissons, puis je n'étais pas capable d'élever. Puis je demandais à mon voisin, nommé Claude White, un grand monsieur gentil, puis il se moquait de moi tout le temps parce que je n'étais pas capable de lever mes poissons, puis il me dit « Regarde, je ne vais pas le lever pour toi, mais je vais te montrer comment le lever. » La fameuse théorie, je vais te montrer comment le faire. Alors, j'ai pêché toute ma vie. J'ai eu la chance d'avoir eu... J'avais pas de père. Et par contre, j'avais une tante pour qui c'était important de me montrer les choses de base. Et les choses de base pour un gars, c'était de chasser, de pêcher aussi. Alors, elle m'a amené pêcher, elle m'a amené chasser le lièvre pour la première fois. Donc, j'ai développé cette passion-là. J'ai bifurqué vers le théâtre pendant quelques années. Et tout d'un coup, j'ai vu cette opportunité d'aller travailler au ministère du Tourisme. Ils avaient besoin de quelqu'un pour vendre le Québec à l'étranger. Tous les produits touristiques du Québec, mais aussi la chasse et la pêche. Puis, il faut reconnaître que la chasse et la pêche au Québec, c'est énorme. Si on calcule les revenus, ce que ça génère en région, si on enlève la chasse et la pêche de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi, de la Gaspésie, la pêche au saumon, la chasse à l'ours, la chasse à l'orignal, la chasse au petit gibier, la chasse au caribou dans le Grand Nord autrefois, c'est un moteur économique important. Et tout d'un coup, me voilà sur ce poste qui demande à faire la promotion de la chasse et la pêche aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Alors, pendant plus de 10 ans, j'ai eu le privilège d'aller dans tout ce qui se faisait de salons de chasse et pêche aux États-Unis, de rencontrer les grandes équipes de tournage. On ne voyait pas les émissions au Québec parce qu'à l'époque, le câble et tout ça, ça n'existait pas. Maintenant, on peut tout voir. Mais à l'époque, donc, j'allais faire les grands salons de chasse et pêche à Las Vegas, qu'on appelle le Shot Show, surtout de chasse. Imaginez 5 places Bonaventure remplies de produits de chasse et pêche qui sont vendus pour tous les magasins à travers le monde. Et évidemment, qui se retrouvent là? Les plus grands médias du monde pour avoir la première nouvelle, la première information sur le nouveau produit. Alors, j'allais dans ces fameux salons-là inviter les journalistes, les grands magazines américains comme Field & Stream, Sports Afield, puis les grandes équipes de tournage. Donc, ils venaient faire ici des reportages sur la chasse au chevreuil, au cerf de Virginie à l'île d'Anticosti, la chasse au caribou dans Longava.
Et là, tu les accompagnais là-dedans?
Toujours, ou presque. Bon, on en organisait 50 par année, ce qui est énorme. Mais évidemment, on ne pouvait pas tous les accompagner. Donc, il y avait la période des salons chasse et pêche de consommateurs entre janvier et mars. Puis ensuite, de mai à très tard en novembre, ben là, on les accompagnait. On organisait des tournages.
Raconte-moi-en quelques-unes.
Écoute, Il y en a des extraordinaires. Aller avec un journaliste, par exemple, de Field and Stream, qui à l'époque tirait 4,5 millions de copies par mois. Il fallait partir en camping sur une rivière à partir de Coudjouac. On prenait un avion. On faisait Montréal-Coudjouac, puis ensuite en avion de brousse, Coudjouac, Lac Diana. Et là, on descendait pendant 7 jours en canot camping pour essayer d'attraper l'ombre chevalier de l'Arctique, cousin du saumon que les Anglais appellent Arctic Char, même nos Québécois appellent ça Arctic Char. C'est l'ombre chevalier de l'Arctique. C'est tellement un beau nom. Et là, pendant 7 jours, on se promenait en canot camping pour essayer de l'attraper quand il remontait fin juin, début juillet, et quittait l'Atlantique, en fait l'océan dans le nord, pour remonter les rivières. Alors, parfois il y avait du poisson, mais parfois il n'y en avait pas du tout. Et ce qu'il y avait toujours, c'était les fameuses mouches noires, mais des volées, là, des volées de mouches noires. C'est difficile d'imaginer. On va en Abitibi, dans les Laurentides, il y en a. Mais imaginez, là, tu veux rentrer dans ta tente le soir, là, puis tu entends un bourdonnement continu. Tu rentres dans ta tente, tu fermes, et tout ce que tu entends, c'est comme un appareil de musique, là, que tu pesais, puis là, tu entendais avant que la musique. Alors là, tu entends le son perpétuel de ces nuées de maringouins, et si elles sont rentrées dans ta tente, mais là, tu en passes quelques heures avant de les tuer. Alors, on attrapait du poisson, on avait cette rencontre exceptionnelle avec les Inuits, qui étaient toujours les guides à ce moment-là. Ça, c'était fabuleux. À l'île d'Anticosti, des équipes de tournage où là, tu vois l'évolution de la chasse selon le mois où tu es présent sur l'île, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Les liens avec ces équipes-là qui chassent à travers le monde, qui viennent au Québec, ils disent, c'est extraordinaire le produit que vous avez. Imaginez l'île d'Anticosti, là, c'est une île. Vous chassez au milieu du golfe Saint-Laurent, vous chassez sur une île, vous êtes entouré d'eau, vous avez un gibier qui a été importé là par le fameux chocolatier
Meunier.
Meunier en 1895, quelque chose comme ça. Il est allé chercher 224 chevreuils en Gaspésie, c'est devenu 150 000 chevreuils. Donc, cette île est devenue comme une école de chasse parce que contrairement au continent, si tu rates ton chevreuil ou tu fais une mauvaise approche, tu lui fais peur, ben, tu ne le revois pas. Alors que là, ben, tu sais qu'une heure après, oh, puis il y en a peut-être 5-6 dans le coin. Donc, c'est une école de chasse fabuleuse. Les gens partout dans le monde viennent chasser le cerf de Virginie à l'île d'Anticosti. La pêche, écoute, la pêche, tous nos réservoirs, réservoirs Gouin. Les étendues d'eau, les rivières, qu'on a, on dit qu'au Québec, on a 1 million de lacs et rivières. On peut pêcher le doré, le brochet, l'achigan, à petite bouche, à grande bouche, tous des poissons sportifs dont les Américains et les clientèles étrangères raffolent. C'est un peu grâce à eux aussi que. Même si, évidemment, on se plaint parfois de la visite, ah, ils vont venir prendre tous nos poissons et tout ça, c'est les Américains qui ont développé la technique de la remise à l'eau, ce qui s'appelle en anglais le catch and release. C'est-à-dire que le poisson sportif, qui peut endurer cette pratique-là, comme le brochet, l'achigan, s'il est bien attrapé, s'il est bien avec des hameçons spécifiques pour ne pas blesser, après l'avoir capturé, tu peux enlever l'hameçon, la blessure est mineure et tu peux remettre le poisson à l'eau. Ce qui assure la survie de l'espèce. Parce qu'il y a des clubs, il y a des associations et des tournois de pêche sportive au Québec. Ils arrivent 50 bateaux, puis ils pêchent intensément pendant quelques heures, puis là, ils sortent les poissons, ils les pèsent. Si c'était terminé, puis qu'ils mangeaient ou qu'ils jetaient ou quoi que ce soit, il n'y a plus de pêche 3 ans plus tard. Alors, c'est eux qui ont apporté cette façon de remettre à l'eau pour assurer la survie de l'espèce.
Le gros gibier, tu l'as chassé avec eux, avec tes
Oui,
journalistes.
oui, oui.
Parle-moi un peu des gros gibiers.
Les gros
On en
gibiers,
rêve tous,
on
là.
en rêve tous. On ne peut pas parler de grand gibier sans parler de la grande peine et de ce qui est arrivé avec le caribou. Parce que je me souviens que dans les années 90, quand je faisais ce travail-là, il y avait deux grands troupeaux. Il y avait le troupeau de la rivière Georges puis le troupeau de la rivière aux Feuilles. Et on estimait la population à 1 million. 1 million, Robert, de têtes. Ce qui fait que les gens, on recevait à peu près entre 5 et 7 000 chasseurs américains. Et on en prélevait 5 à 10 000 par année, ce qui n'allait pas toucher le troupeau vraiment. Et là, par un mélange de circonstances, allant de la surpopulation du caribou, qui fait qu'à un moment donné, il devient malade, il y a trop, il y a moins de nourriture. Le caribou se nourrit d'un lichen qui prend 100 à 150 ans à pousser. Donc, quand tu as la chance de survoler le Grand Nord, tu vois les autoroutes de caribou, 1 million de caribou là, qui passent, qui tournent à chaque année pour faire sa migration, pour aller se reproduire, ensuite manger. Eh bien, on s'est retrouvé avec le troupeau de la rivière Georges avec moins de 15 000 têtes. Donc, ils ont été obligés d'interrompre complètement la chasse pour conserver pour les Inuits, pour les Amérindiens dans le Nord, au moins une chasse de subsistance. Alors ça, le caribou a été un animal fabuleux à chasser dans ces grands espaces-là. On parlait tout à l'heure du cerf de Virginie à l'île d'Anticosti. Le cerf de Virginie au Québec, en Outaouais, dans les cantons de l'Est, dans les Laurentides. L'ours noir. L'ours noir attire encore énormément les Américains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a plusieurs États où ils n'en ont pas. Où ils n'ont pas le droit de le chasser. En Ontario, longtemps, ils n'ont pas eu le droit de le chasser. Ils ont recommencé il y a quelques années. Alors, c'est une chasse printanière qui se pratique en Abitibi, dans les Laurentides, sur la côte nord. Au Québec, on a de très gros ours. Même si la moyenne varie entre 100 et 200 livres, il y a encore des spécimens de 300, 400 livres. Alors, c'est une chasse extrêmement populaire.
C'est quoi le plaisir de tuer quelque chose qui est gros?
Ben, la majorité pour eux, pour les Américains, en tout cas, chose certaine, rapporter la peau, c'est essentiel. La chasse du trophée, c'est important. Quand ils vont chasser le caribou, ben, c'est toujours le panache. Quand ils vont chasser l'orignal, c'est le panache. Personnellement, c'est pas le panache qui m'intéresse. Je trouve que ça se mange difficilement. Je me casse les dents là-dessus. Donc, pour moi, toutes ces fois où j'ai accompagné ces gens qui chassaient des... Eux, ils cherchaient l'énorme trophée. À un moment donné, j'ai accompagné un groupe d'Italiens, de journalistes italiens. Puis à la fin de la journée, à la chasse au cerf de Virginie, à l'île d'Anticosti, à la fin de la journée, les animaux sont suspendus dans une maison aérée pour faire vieillir la viande. Et évidemment, tout le monde se compare. Hein? Moi, j'en ai une plus grosse que la tienne. Alors moi, mon panache est plus gros que le tien. Et on voit dans le coin deux veaux chevreuils. Alors là, les Américains commencent à dire, ben voyons, qui sont ces maniaques, qui sont ces fous qui tuent des bébés? Alors là, on s'informe, on ne trouve pas. Le lendemain, on revient, il y a deux autres veaux. Alors, je fais ma petite enquête, puis c'était mon groupe d'Italiens que je laissais aller au quotidien, au jour le jour. Je revoyais le soir, mais on ne parlait pas de ce qu'ils avaient abattu. Et là, je leur pose la question. Mais il dit, Siegfried, c'est la meilleure viande possible. C'est du veau, ça se découpe à la fourchette. Alors là, j'ai une vision complètement différente. À partir de ce moment-là, dans mes chasses, j'ai toujours chassé ce qu'il y avait de plus petit pour ce côté fabuleux de la viande, le goût, la tendresse, la tendreté de la viande. Je me souviens, une année, là, j'en avais rapporté, puis on avait fait un petit méchoui là, juste sur de la braise. C'était délicieux.
Des petits parce que c'est meilleur. Parle-moi donc de la gastronomie, parce que tu as un métier, tu prends des beaux poissons, tu chasses, mais tu manges aussi, là. Je te connais.
Toujours, toujours. En fait, c'est personnel. Le seul gibier que je n'ai jamais chassé, c'est l'ours noir. Parce que j'avais une certaine réticence à manger l'ours noir. J'avais assisté à un moment donné au pelage de la bête, puis je trouvais que ça ressemblait à un humain qui n'avait pas... Et puis, l'ours, c'est une viande qui a besoin d'être cuite beaucoup parce qu'il y a des bactéries. Par contre, moi, personnellement, j'ai toujours chassé ce que j'ai mangé. Je n'ai jamais tué ou pêché ce que je n'ai pas mangé. Alors, tous les gibiers avec des sauces, puis je me souviens, c'est de notre époque et peut-être encore davantage la tienne. Tu dois te souvenir de Serge Desglin,
ben oui,
Francine... j'oublie son famille, mais... Et les premiers André Croteau à avoir publié des livres de recettes, même Jeanne Benoît ne parlait pas de gibier, mais il y avait nos anciens chroniqueurs de chasse et pêche à l'époque qui qui nous expliquait que c'était important de faire mariner les viandes sauvages pour essayer de, sinon d'étendre la viande, au moins enlever peut-être le goût de
Mais tu te
de
fais, tu
bois.
te fais encore des festins de viande
Oui,
sauvage,
oui, toujours.
D'oie ou d'orignal.
Oui,
de,
tout à fait, parce que même si je ne travaille plus dans le domaine, je continue parce que c'est ça ma passion. J'ai eu ce privilège de faire un travail qui me permettait d'aller chasser et pêcher, ce que je faisais quand j'étais tout petit. Personne ne faisait ça. Alors, au bureau, dès qu'il y avait une question sur la chasse et la pêche, c'est moi qu'on venait voir. Alors, dans les autres provinces, il n'y avait pas ce représentant du gouvernement pour faire la promotion à l'étranger de la chasse et la
Mais
pêche.
C'est un peu à contre-courant, parce que c'est une époque où on se disait il faut pas tuer les... On devient facilement végétarien, etc.
Tout à fait.
Tu n'étais pas très à la mode dans la...
Non, puis même mes enfants, les premières bouffes qu'ils ont eues en passant à la moulinette, c'était de l'oie, de l'outarde, du chevreuil. À la garderie, ils me regardaient avec des yeux grands comme la pièce, là. Alors non, j'ai la chance d'avoir mon garçon qui poursuit, qui aime ça, parce que justement, dès leur jeune âge, on leur a dit, écoutez, c'est important de manger ce que vous avez, de bien le préparer, il faut respecter le produit, comme disait notre ami à l'émission Les Chefs, le chef Boulay à Québec.
Siegfried Gagnon et son aventure de vie, beaucoup autour de la chasse et pêche, mais autour de la vie culturelle aussi. Je t'ai connu étudiant en écriture théâtrale, on est loin de la chasse à l'orignal ou à l'oie sauvage, mais chaque personne évolue dans la vie. Raconte-nous un peu ton enfance. Tu as été élevé à Oka, mais dans des circonstances quand même particulières, qui n'étaient pas données à tout le monde.
Non, mais quand même privilégié dans un milieu à Oka, comme tu disais, très modeste financièrement, avec ma mère qui était journaliste, et puis sa sœur qui était à l'époque biologiste, qui est devenue journaliste à Radio-Canada, scientifique. Et évidemment, le seul homme qu'il y avait dans la famille, c'était mon grand-père. Parce que, en grandissant, j'ai bien réalisé rapidement que ma mère était toujours accompagnée par des femmes à la maison. Et
Tu
que.
as été élevé par un couple de femmes, là. Tu parles de sa sœur.
Oui, donc ma mère vivait avec des femmes et la sœur de ma mère a aussi vécu avec une femme. Mira Kry, journaliste aussi à Radio-Canada, dont je souligne l'inauguration il y a 2 semaines à Oka de la bibliothèque Mira Kry. Je trouve que c'est un beau clin d'œil à l'histoire. Premièrement, l'immense culture de Mira, qui était autochtone, Mohawk, et sa défense de la langue française. Alors, j'ai été élevé par 4 femmes magnifiques et dans un milieu, si financièrement au début était vraiment moyen, culturellement était extraordinaire.
Déjà pour appeler le fils Siegfried, là on est dans Wagner. Il n'y a pas beaucoup de Siegfried au Québec avec une ceinture fléchée autour de la taille.
Non, il n'y en a pas tellement. Par contre, tu seras étonné de savoir que j'ai trouvé sur Internet, il y a un Siegfried Gagnon qui vit à Marietta, en Géorgie. Et je me suis dit que j'allais faire la démarche éventuellement. J'ai vu sur Internet, il y a 76 ans. Je me suis dit, mon Dieu, c'est bizarre, ça vraiment, là. Alors non, d'ailleurs, quand on me demande pourquoi est-ce que ta mère, tes parents t'ont appelé Siegfried, alors la première réponse pour m'en débarrasser, ils aimaient l'opéra. Mais ça n'avait rien à voir avec ça, ils trouvaient ça très original, donc ma mère et sa sœur à l'époque. Et puis même que si j'avais été une fille, elle m'aurait appelé Siegfried. D'ailleurs, pour me venger, j'ai appelé mon garçon Hemingway. Donc, dans ce
Donc,
milieu.
une enfance heureuse, là, entourée de femmes,
Oui.
bon, mais on t'initie aux choses de la culture, mais aux choses de la nature aussi.
Oui, c'est donc ma mère et sa sœur Solange, très jeune, qui m'amène pêcher, qui m'amène sur le lac des Deux-Montagnes, à Oka, en chaloupe, parce qu'on a toujours. Ma mère et Solange étaient très sportives, ont eu un bateau à voile. Donc, pour eux, pour elles, la pratique du plein air, c'était extrêmement important, et particulièrement pour Solange, que je surnomme toujours Poupa, mon père, parce que c'est elle qui a vraiment joué le rôle de mon père. Je vous mets dans le contexte où à ma naissance, le 23 décembre, mes grands-parents ne savent pas que leur fille plus âgée est enceinte, n'a pas de conjoint à l'époque, et le soir du réveillon, Solange leur apprend que le sauveur est né et qu'ils sont grands-parents d'un petit garçon qui est né la veille. Imaginez la veille de Noël, ils ont regardé le plancher à l'église, ma grand-mère a monté au 4e étage, ça a été terminé, ils ne se sont pas parlé pendant quelques jours. Ça a pris d'ailleurs 2 ans avant qu'elle accepte de me voir. Après, tout ça s'est réglé, mais j'ai vraiment été élevé dans un milieu heureux par des femmes extrêmement généreuses et pour qui la culture, c'était essentiel. Oui, le plein air. Poupa m'a amené, la première qui m'a amené pêcher, qui m'a amené chasser le petit gibier. À l'époque, elle se promenait dans le bois avec son grand ami Robert Lalonde, qui vient d'Oka aussi. Mais comme il parlait puis il chantait davantage, il n'y avait jamais de gibier, il ne revenait jamais à la maison. Et je me souviens qu'un jour, ils ont rapporté un lièvre le soir, mais mon grand-père l'a arrangé, puis on l'a mangé le lendemain, c'était extraordinaire. Mais c'était davantage des poètes que des chasseurs. Mais ça m'a transmis la passion. C'est la première qui m'a amené chasser l'oie blanche à Montmagny. Voir ces troupeaux. Ces immenses troupeaux de 200 000, 300 000 oies blanches qui tourne autour du fleuve et puis tranquillement se pose, c'est fabuleux.
Ta relation avec les autres enfants, tu avais 7, 8, 9, 10 ans, ça se passait comment?
Ben, il n'y en avait pas trop. Il y avait les enfants. Mira avait 4 enfants. Donc, il vivait avec Solange et Mira. Et puis, ce sont surtout ces enfants-là que j'ai côtoyés. Évidemment, à l'école, c'était autre chose, là. Mais très rapidement, au secondaire, ma mère et Solange m'ont envoyé au pensionnat à Rigaud. J'étais pensionnaire pendant 5 ans à Rigaud. Et puis, au retour, autant j'ai eu cette initiation à la nature par des femmes qui, bien qu'elles étaient très impliquées dans le ski, sur le ski nautique, la marche en plein air, le ski, la chasse et la pêche n'étaient pas leur fort. Mais comme je disais tout à l'heure, pour Solange, elle avait la conception et la conviction que pour un garçon, même s'il n'y avait pas de père dans l'entourage, c'était son devoir de transmettre ce besoin essentiel. Alors, autant il y a eu ça, autant il y a eu cet apport culturel qu'on ne peut pas nier, parce que tu parlais tout à l'heure qu'on s'est connus à l'École nationale de théâtre en 85, 85-86. Pour moi, la référence, c'est le crash de la navette Challenger. Parce qu'à l'époque, Robert, si tu te souviens, tu nous enseignais d'ailleurs en troisième année, et tu nous avais donné le privilège de t'accompagner dans tes émissions de radio et tu nous avais fait passer une journée dans la salle de nouvelles de Radio-Canada. Et comme par hasard, on est là, tous là, à regarder et qu'est-ce qu'on voit? Le décollage de la navette Challenger. Donc, c'est en 84, je pense. En tous les cas. Et elle explose devant les écrans. Ça avait été un choc inouï. Alors, toi-même, si je parle de mon poupa et de la famille qui ont eu une influence culturelle, je dois dire que tu as eu une influence majeure en nous permettant de faire ça, d'être là. Poupa avec. Oui, vas-y.
Je vais faire une parenthèse. J'ai besoin de faire cette parenthèse parce que c'est un classique dans mes souvenirs. Bien sûr, j'enseignais l'écriture en dramatique, spécifiquement celle de la radio, pour les dramatiques radio. Et j'ai demandé à mon ami et mon élève à l'époque, Siegfried, d'écrire un texte. Et on remettait ces textes-là à un bruiteur qui préparait ces bruits. Et dans le texte de ce merveilleux Siegfried, il avait marqué: bruit de pas d'un loup qui recule sur la neige apeuré. Et dans l'histoire de Radio-Canada, ça reste encore comme la demande la plus impossible à remplir pour un bruiteur, c'est toi qui l'as fait.
J'ajouterais à ce moment-là aussi que dans ses nombreux métiers, Robert a été aussi éditeur pour un journal, un nouveau journal qui s'appelait Le Matin, si je me souviens bien. Et Robert, encore une fois, m'avait offert l'opportunité d'écrire mon histoire, d'écrire, de publier quelque chose. Et puis, je n'avais pas de nouvelles. Puis, je harcelais Robert. On me dit, quand est-ce qu'il va être publié? Et là, Robert, tu m'appelles et tu me dis, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que ton article va être publié demain, mais que demain, c'est le dernier numéro du journal. Donc, à la lecture de ton texte, ils ont décidé de le fermer.
Oui, on a vécu bien des choses. Parle-moi un peu de ton adolescence. T'as découvert l'amour, l'amitié, de quelle façon?
L'amour, l'amitié, écoute, premièrement, c'est à la maison de voir les liens qu'il y avait entre Mira et Solange, entre ma mère et sa compagne de l'époque. L'amour à la maison, là, la liberté de s'exprimer, de s'aimer, et de voir qu'à cette époque-là, on parle donc de 1900, entre les années 70 et 80, de voir cette ouverture à l'autre, à la diversité, pour moi, c'était normal. À quelques reprises dans le passé, justement à cause de ce lien, à cause de la notoriété de Mira, de Solange, de ma mère qui était journaliste à la Patrie à l'époque et qui a fait plusieurs reportages, on m'a posé des questions, on m'a interviewé sur le fait d'avoir des parents gays. si ça avait une influence sur ma vie, si ça m'avait dérangé. Et puis, non, c'était tellement naturel. Et c'est ça que j'expliquais. Et même pour elles, elles n'ont jamais ressenti l'utilité ou le besoin d'aller au défilé de la fierté gay, par exemple. Elles étaient ce qu'elles étaient et elles assumaient ce qu'elles
Mais ça n'a pas
étaient.
fait de toi un gay pour ceux qui pensent que ça vient de l'éducation, là.
Je dirais que bien au contraire. Peut-être que le fait d'avoir vu autant de femmes dans ma vie, ça m'a orienté, mais non, pas du tout. C'était souvent la question qui revenait. Est-ce que le fait d'avoir été élevé par des parents gays, ça a orienté ce que tu allais devenir au niveau sexuel? Non, pas du tout.
Alors, comment ça a commencé pour vrai? C'est quoi ton premier amour?
Mon premier amour, c'était quand j'étais pensionnaire à Rigaud, en secondaire 4 et 5. Et puis, évidemment, ça marchait pas. Donc, je n'avais que des noms. Ensuite, au collège, je suis allé au cégep, collège Marguerite Bourgeois à Montréal. Là aussi, ça a été des noms, une accumulation de noms. Et puis, étonnamment, ma première blonde, ça a été la fille de Mira. La fille de Mira, la plus vieille, Mira avait 4 enfants. Donc, à l'âge de 17 ans, Mira a
C'est presque
été mon premier amour.
incestueux,
Et c'est presque ça.
là.
Alors, même qu'aujourd'hui, Mira a un enfant, moi j'ai des enfants de mon côté, puis quand les enfants se présentent, on ne sait jamais, est-ce qu'on est des cousins, est-ce qu'on est des frères, est-ce qu'on est des amis? Mais alors, ça a été ça la première période.
Puis après ça, il y en a eu plusieurs,
Non,
t'étais.
non, non, il n'y en a pas eu tellement. Il y a eu une courte période à l'université, puis quand je suis arrivé à l'École nationale des arts en 82, j'ai rencontré l'amour de ma vie, Myriam, qui était une étudiante en théâtre aussi, qui arrivait de Québec, dont les parents venaient de la Gaspésie. Et aujourd'hui, ben, ça fait 36 ans qu'on partage notre vie avec 2 enfants extraordinaires.
C'est une belle relation que tu as avec Myriam.
Oui. Exceptionnel, parce que Myriam est enseignante et elle a toujours eu cette écoute. Cette écoute de l'autre et cette façon d'analyser. Quand j'ai rencontré Myriam, Myriam tirait les cartes, les lignes de la main puis les cartes. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré la première soirée à l'École nationale du théâtre où tout le monde va à la brasserie à l'arrière. On prend un verre, puis je vois que Myriam tire les lignes de la main les lignes de la main à quelques personnes. Alors je m'approche, bon, qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Alors là, les filles qui étaient en avant, j'ai eu droit à un regard assassin. Puis là, je me suis assis à côté de Myriam, et puis je me suis commandé un spaghetti. Puis je dis, bon, ben, lis-moi donc les lignes de la main, là. Qu'est-ce que tu vas voir là-dedans? Eh bien, crois-le ou non, Robert, je n'ai jamais mangé mon spaghetti. Dieu sait que je croyais pas à ces trucs-là. Puis là, elle commence à me dire des trucs que personne ne savait. Sur ma famille, sur la relation avec ma mère, sur Solange. Elle m'a éteint. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'elle me dit à la fin, oh, écoute, de toute façon, toi et moi, ça sert à rien de se parler, ça marchera pas, toi et moi. Ben, je commence ça parce qu'elle dit, quelque chose me dit que tu es Capricorne, puis je suis Capricorne. Puis deux Capricornes ensemble, ça ne marchera pas. Puis de toute façon, demain matin, tu ne te souviendras même pas de mon nom. Alors, on se laisse ce soir-là. Le lendemain matin, je suis devant l'École nationale de théâtre, prêt à rentrer. Je suis avec mon meilleur ami, Robert. Et je vois Myriam qui arrive avec 4-5 amis avec qui elle partage son petit 3,5. Puis dès qu'elle passe en arrière de moi, bonjour Myriam Saint-Pierre! Alors, ça a été le début, dès le premier soir, ça se prolongeait.
Et il y a eu des enfants.
Il y a eu des enfants, 2 enfants, Hemingway, dont on parlait tout à l'heure, grand pêcheur devant l'Éternel, qui, j'espère bien, va continuer cette relève-là, et qui travaille dans le dessin 3D, la vidéo, le dessin sur vidéo, c'est extrêmement difficile. Même si on entend parler qu'il y a énormément d'emplois, ça prend de l'expérience. Puis quand on sort de l'école, il n'y a pas d'expérience.
Et l'autre enfant?
Émilie retient énormément de sa mère. Elle étudie au doctorat en psychologie. Elle fait un doctorat double en clinique et en recherche. Et puis là, elle est allée faire des présentations aux États-Unis.
Quelle sorte de valeurs tu leur as transmises? C'était quoi tes priorités dans les valeurs?
Ben, c'est la générosité, c'est le partage, l'humour, le soin des autres, de penser aux autres beaucoup. Émilie est une grande âme, une vieille âme qui a toujours ce besoin de défendre autrui, de travailler pour les autres, de travailler pas juste pour nous. Le respect, la générosité, le partage, c'est le développement de l'intelligence qui n'est pas une valeur, mais l'importance de lire, de voyager, de s'instruire, d'apprendre. D'ailleurs, Émilie était au cégep pendant la crise étudiante et était au cégep du Vieux-Montréal. Après 2 semaines, le cégep est tombé en grève pour 10 ans. Et puis, j'ai dit, tu vas pas perdre ton temps ici, là. Alors, on l'a mis sur un avion, elle est allée en Angleterre, elle est allée apprendre l'anglais, elle est allée se promener en France. C'est important pour nous qu'elle puisse
faire ça. T'es fier de tes enfants?
Très fier. Très, très fier. Et très heureux de dire qu'elles retiennent, surtout de leur mère. Parce que tout à l'heure, on parlait. Myriam avait ce côté, cette facilité à lire les autres. Puis dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait rien à voir avec les lignes de la main ou les cartes. C'est qu'à regarder la personne puis à l'étudier, elle était capable de percevoir des choses. C'est de la psychologie. Myriam est enseignante. Et Émilie, c'est pas étonnant qu'elle se retrouve en psychologie.
À l'aventure aujourd'hui, Siegfried Gagnon, professionnel du plein air pendant longtemps. Maintenant, ça évolue. Tu es toujours fonctionnaire au gouvernement du Québec, non?
Oui, après avoir travaillé pendant près de 25 ans au ministère du Tourisme, à faire, comme on disait tout à l'heure, la promotion de la chasse et la pêche, mais aussi la promotion du Québec comme destination de tout produit touristique, congrès, tout ça. Je me suis occupé beaucoup de logistique, d'organisation de congrès. J'ai eu la chance, le privilège d'accueillir des gens de partout dans le monde, d'Asie, d'Europe, d'Afrique, des gens qui venaient ici pour se familiariser avec le Québec, puis ensuite le revendre à l'étranger. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Au cours de la dernière année, j'ai vraiment eu des privilèges professionnels. Au cours de la dernière année, j'ai travaillé au ministère de l'Immigration, depuis septembre dernier, en fait, et j'ai eu la chance d'aller faire des missions de prospection aux Philippines, au Vietnam, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, parce que je pense qu'on a bien compris, on le répète sur toutes les tribunes, que le Québec est en manque de main-d'œuvre dans plusieurs domaines. Et donc, ces pays-là, évidemment, l'Afrique francophone prioritairement pour essayer d'avoir des Français, des francophones, pardon, pour venir travailler ici, et les Philippines, parce que c'est probablement une des clientèles de travailleurs dont la réputation est sans faille, sans tache. Partout, là, il y a déjà près de 40-50 000 Philippins au Canada, et leur réputation comme travailleurs, ils s'adaptent, ils apprennent la langue, même si leur langue primordiale est l'anglais et le tagalog, mais ils font des efforts inouïs. Alors, j'ai eu cette chance d'aller rencontrer ces gens-là, de voir des communautés différentes, de me familiariser aussi avec la pauvreté que je n'avais jamais vue, vraiment, là. Je l'ai vu quand je suis allé, j'ai eu la chance d'aller chasser au Burkina Faso il y a 2 ans. Et c'était mon premier contact avec la pauvreté dans le désert, dans la brousse. Et de voir aussi comment les femmes étaient traitées. Alors, au Sénégal, j'ai vu ça aussi. Et les gens qui m'ont dit... Je suis revenu assez marqué. Chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans les ambassades, qui aident économiquement, je leur demande toujours, c'est quoi, comment faites-vous pour passer au travers de cette peine-là, de le choc qui est autre chose, qui est un choc culturel?
La proximité de la pauvreté, là. Oui, oui, absolument.
Ils me disent tous, de façon générale, c'est que s'ils ne passent pas au travers, ils ne sont pas capables de faire leur travail puis de rester là. Ils en viennent à dire, bon, ben, je vais faire mon travail du mieux que je peux. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider. Puis je ne peux pas donner à tous les gens qui sont à terre, en train de mourir sur le coin de la rue. Je vais faire ce que je peux dans mon secteur d'activité. Puis c'est comme ça que je vais être capable de passer au travail.
Je te connais assez pour savoir à quel point tu es un être sensible. La fréquentation de tous ces pays extrêmement pauvres t'a nécessairement marqué, c'est certain. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi, ça?
Bien, c'est sûr que je regarde, ça, on ne peut pas m'empêcher de faire une certaine comparaison avec la pauvreté qu'on a ici. Puis, ça m'a convaincu certainement que c'est pas en donnant juste un montant sur le coin de la rue, que ce soit là-bas ou ici, que ça va changer les choses. Il faut organiser, il faut faire partie d'organismes qui savent où aller. Parce que c'est une des choses que j'ai réalisées. On ne peut pas s'improviser de donateur, arriver là-bas et dire, bon, ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce qu'effectivement, au Sénégal, par exemple, je me suis révolté à un moment donné contre le sort de certaines employées sénégalaises, employées par des richissimes Français, des propriétaires là-bas. Et à un moment donné, tu parlais de mes émotions, je me suis mis à pleurer dans un coin, puis la dame chez qui j'habitais, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que vous vous laissez parler, insulter, toucher, taponner? Et là, la dame, qui me connaissait quand même depuis 4 jours, me dit, écoute, là, toi, là, tu es un blanc, là, qui arrive avec ton concept, et que tu penses que tu sais comment régler les choses, puis que tu vas nous dire quoi faire. Cette dame-là, elle a 5 enfants. C'est la seule qui travaille dans sa famille. Et si tu lui mets dans la tête la graine de se révolter et puis qu'elle claque la porte de main parce qu'elle veut promouvoir les droits des femmes et tout ça, elle n'a plus d'argent pour faire éduquer ses enfants, puis elle ne trouve pas de travail, là. Donc, si tu veux l'aider, peut-être que tu peux, peut-être lui, si tu avais le temps, tu pourrais lui parler de l'importance d'ouvrir un compte, d'avoir son propre compte. Comment est-ce qu'elle pourrait mettre des sous de côté, d'arriver avec des programmes d'aide structurés, ou si toi, tu n'es pas capable d'en faire, de peut-être de joindre des programmes. Alors ici, j'essaie d'identifier des organismes, que ce soit, moi, là, je parlais du Chaînon, ou des gens qui sont habitués à aider, qui savent où aller, qui savent que l'argent qu'ils vont investir va aller au bon endroit. Je me souviens, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai passé sur la rue Ontario, il y avait une foire, et puis il y avait quelqu'un qui ramassait des sous, puis c'était marqué « don pour le cancer ». Puis il y en avait de l'argent dans le bocal, là. Puis j'ai appelé à la Fondation québécoise, non, c'est pas vrai. Puis pas longtemps après, on a eu une jeune, une belle adolescente, là, qui est venue nous vendre du chocolat à la maison, qui me dit « bon, ben ça, c'est pour faire un voyage. Et puis, on donne l'argent à un monsieur, là, on vend la tablette 5 $, et puis on va aller à Haïti faire un voyage humanitaire. » J'ai acheté 4 tablettes. Elle
Ah oui.
revient 3 mois plus tard. Elle nous raconte qu'elle a eu droit à 1 $ sur 5, que le monsieur qui s'occupe de ça, lui, il garde tout l'argent, puis qu'elle n'a pas eu droit de faire le voyage en Haïti parce qu'elle n'avait pas répondu aux critères de vente des tablettes. Elle en vendait 100 par jour.
Sans les voyages d'adolescents, d'étudiants et d'étudiantes en pays en voie de développement, comme on disait à l'époque, 10 jours de voyage pour aller faire de l'aide internationale, pour moi, c'est un scandale. Ça excite les enfants, ils s'en vont en étranger et tout, mais c'est consacrer l'inégalité mondiale quand ils reviennent de là. Je trouve ça effrayant. C'est pas comme ça qu'on peut faire de l'aide internationale. Tu l'as vu d'abord aussi. Parle-moi donc un peu de... Bon, t'as fait un métier formidable dans l'environnement à cause de la chasse et de la pêche. Parle-moi un peu de la planète.
C'est pas Jojo. Bon, encore une fois, mon Dieu, que le fait de voyager, ça ouvre l'esprit. Pas seulement l'esprit, mais ça ouvre tout. Moi, je pensais que la pauvreté ici, c'était les gens dans la rue et tout ça. Bon, j'ai vu en Afrique des gens morts par terre. J'ai vu aussi au niveau de l'environnement ici, qu'est-ce qu'on fait. Et le plus grand choc environnemental de ma vie, c'est au Burkina Faso de voir que partout, il y a des sacs bleus et blancs, partout, 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 par terre. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de système de ramassage de vidange. Donc, les sacs de plastique sont partout. Et là, on sort de la ville et on est en pleine brousse. Le petit village, on sort du village, on est en pleine brousse. Ce sont des kilomètres de sacs de plastique au pied carré partout. Quand arrivent les grandes pluies, l'eau monte de 8 pieds, les sacs sont répandus partout, et là, tu en trouves dans les arbres. L'eau baisse, ça revient, les déchets sont brûlés avec ce qui est consommé ou non, ce qui reste, et il n'y a pas de système de ramassage. Puis là, tu dis, mon Dieu, eux, avec les sacs, là, ils sont rendus là. Si nous, on continue à les utiliser, puis à les envoyer partout, puis à les jeter, puis les bouteilles d'eau. Moi-même, j'avoue que j'ai été sur le tard à comprendre ça. Tu demandais tout à l'heure, tu es revenu de ce voyage-là. Ben, c'est en venant de ce voyage-là que nous, on s'est dit, les bouteilles de plastique, c'est fini. Les sacs, il nous arrive parfois d'en utiliser, mais de façon générale, on transporte toujours nos propres sacs. Je pense que ça, pour moi, ça a été le fait, j'étais pas capable de le voir chez nous. Mais le fait de voir le dégât à l'extérieur, oups.
Je voudrais que tu me parles de la forêt, de nos lacs, du fleuve Saint-Laurent. Tu as pêché partout, tu as chassé partout. Est-ce que tu as vu les effets du réchauffement de la planète?
Je peux pas dire que je l'ai vu. J'ai jamais vu de poissons morts à grande échelle. J'ai vu des lacs avec les fameuses algues bleues il y a quelques années. Mais je ne peux pas dire que je l'ai vu parce que probablement que j'y étais pas non plus tellement conscientisé. C'est davantage depuis 2 ans. Depuis je dirais, oh, 2 ou 3 ans, il y a un regroupement, il y a la présence de Dominique Champagne. Je pense que, même, j'y pense là, je crois que je me suis allumé à ça lorsque Dominique a fait sa croisade sur les fameux puits de forage qui étaient pour du gaz de schiste, je crois. Je pense que ça a vraiment été mon premier. Comment dire, mon premier réveil, dit, wow, il se passe des trucs. C'était comme si, ou bien je le voyais pas, ou bien on n'en entendait pas parler. Là, les gens en parlent davantage. Moi, j'avoue que je l'ai pas vu. Est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire ou pas? Je pense pas que ça a été volontaire parce qu'on vit dans l'exubérance, on vit dans l'énormité des lacs, on vit dans le plein air. De façon générale, les gens se ramassent, puis c'est très rare d'arriver dans le bois, puis oh, mon Dieu, c'est dégueulasse. Parce que c'est encore grand, parce que les gens n'y vont pas. Puis, encore, quand on fait la promotion des voyages à l'étranger, pas à l'étranger, mais loin dans le nord, on dit, hey, il n'y a personne qui est allé.
Ouais, mais il y a moins de caribous qu'il y
Il y
en
a moins
avait.
de caribous qu'il y en avait. Probablement, à l'époque, on ne parlait pas du réchauffement de la planète comme cause pour l'effondrement du caribou. Évidemment, tu sais comme moi que. Plus il y a de caribous, plus il y a de loups qui vont bouffer les bébés, plus les bébés vont se faire bouffer pendant quelques mois, ils vont en avoir. Ce sont des chaînes. Je crois qu'on réalise de plus en plus que on s'éteint. Si on apporte nos vidanges quand on va en camping, puis qu'on les laisse là, puis qu'on les rapporte pas, puis un voyage qui m'a. Ça m'allume, là. Je suis allé aux îles de la Madeleine il y a 2 ans. J'y étais allé 4 fois pour le travail, 3, 4 jours, mais jamais pour le plaisir. Et là, on loue un chalet, on arrive dans la maison, et la première chose dont le propriétaire nous parle, c'est le recyclage. Et là, il y a 5 poubelles différentes. Et aux îles de la Madeleine, ils ne peuvent pas faire d'enfouissement. Donc, ils doivent domper leur vidange ailleurs. Donc, il faut qu'ils réduisent la consommation, mais surtout bien diviser ce qu'on jette. Alors ça a été très important pour moi.
Vieillir, comment ça se passe dans ta tête ou dans ton corps?
Je vois. C'est plus difficile dans le corps que dans la tête, je crois, parce que les os, parce que tout, parce que les maladies qui sortent, parce que je peux pas courir autant, parce qu'il faudrait que je fasse des exercices puis je me convainc pas à le faire. Dans la tête, ça va bien, parce que je suis heureux, parce que je suis entouré de gens heureux. Parce que professionnellement, je fais des choses qui me stimulent. Je dois dire que l'année dernière, grâce à mon travail, les conditions de mon travail, Myriam et moi avons pu prendre ce qu'on appelle un traitement différé, une année de traitement différé. C'est-à-dire que pendant 4 ans, ils te prélèvent un montant de ton salaire et la 4e année, tu pars comme si c'était une sabbatique, mais tu as un montant de ton salaire. Et on en a profité pendant 1 an. On est allé en Asie, en Afrique. On est allé en France à la recherche pendant 5 semaines de nos ancêtres. Elle a trouvé les Saint-Pierre dans une église près de Beaulieu-sur-Mer, une église du 9e siècle où il y a une petite plaque qui dit que d'ici est parti le premier Beaulieu. Moi, j'ai trouvé la Gagnonnière où étaient les premiers Gagnons. Alors, ça a comme donné un boost et au physique et mais surtout au mental.
Il te reste-tu des rêves?
Oui, je veux continuer de voyager. Je veux m'assurer. Mon rêve, c'est de voir ma fille arriver au bout de son doctorat, puis de travailler, puis d'être heureuse dans ce qu'elle fait. La même chose pour mon garçon, de voir se développer dans le 3D et d'être éventuellement d'avoir des petits-enfants. Je trouve qu'ils sont tardifs un peu. Ils sont longs, lents. Je peux pas trop leur donner de cours, mais bon. Oui, continuer de voyager, aller voir les gens. J'ai peut-être attendu trop longtemps. J'ai décidé aussi que ça finissait les regrets. Je me paye un cours de piano à partir de dans 2 semaines. Bon, le prof m'a demandé ce que j'aimerais faire d'ici la première année. Bien, je voudrais faire l'impromptu de Chopin, puis aller faire du Liszt. Puis là, il dit, je pense que vous êtes mieux peut-être d'aller vivre dans un univers parallèle pour ça. contentez-vous pour le moment d'apprendre. Alors, je pense que c'est ça, c'est d'arrêter de dire, j'aurais donc dû, puis essayer des affaires qui ont, même si elles n'ont pas de sens, je vais les essayer, puis je vais les faire.
Si ça vous dit, il y aura une prochaine aventure dans une semaine. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.